Emmanuel Bove, L'amour de Pierre Neuhart. Chapitre 1er. Pierre Neuhart se leva brusquement et se mit à arpenter son bureau. C'était une pièce assez vaste, située place Saint-Sulpice, au premier étage d'un vieil immeuble dont les appartements, privés d'eau et de gaz, avaient été aménagés en locaux commerciaux. Elle était meublée de classeurs de carton, de sièges usagés, d'une grande table couverte de paperasse, d'encriers, de règles, de pots de colle. Près de la fenêtre, un guéridon supportait une lourde et antique machine à écrire, rappelant par sa solidité et son aspect peu pratique les premières automobiles. Un appareil téléphonique était fixé au mur à hauteur d'homme. Quelques affiches, si mal clouées que l'on eût pu glisser le bras entre la paroi et elle, décoraient la chambre. Invité à passer la soirée chez Madame Aspie, Pierre Neuhart était agacé. En même temps qu'il regrettait d'avoir accepté, il était enchanté de se délester un peu, de pénétrer dans un monde nouveau, de changer d'atmosphère. Avant de sortir, il décida d'en finir avec son courrier. Il le remettait toujours au dernier moment, les lettres d'affaires étant pour lui une corvée. « Simone, prenez ce que je vais vous dicter, » dit-il à l'employé qui partageait son bureau. « Il est presque 6 heures. Je vous préviens, je m'en vais à 6 heures, » répondit-elle. « Il fallait penser plus tôt à votre courrier. »« Faites ce que je vous dis. Si vous n'êtes pas contente, j'en suis désolée. Vous y êtes ?»« Bien. Adresse. Monsieur Muller, rue du Rempart, Maubeuge. Vous êtes prête ?»« Bien. Monsieur, votre lettre du 10 courant. Je note d'avoir à vous expédier 20 tonnes de gravier numéro 4, exempt de sable, comme vous le désirez. Le départ aura lieu demain. Étant donné les bonnes relations que j'ai entretenues avec vous, je n'ai jamais rien entretenu avec lui. Lorsque j'étais à Maubeuge, je suis prêt à vous accorder toute latitude pour le paiement. Ce qui ne m'arrangera pas du tout, mais enfin, espérant avoir par la suite la faveur de vos ordres, qui auront mes meilleurs soins, veuillez agréer, etc. » Pierre Neuhart s'arrêta de marcher. Il regarda Simone en souriant. « J'aimerais mieux écrire à une jeune fille comme vous, » dit-il. « Ce serait plus amusant. Ce que ce genre de correspondance peut m'embêter. Ah là là, si je pouvais !»« Encore une lettre et vous partirez. Vous êtes satisfaite comme cela ?»« Mon travail finit à 6 heures. Je veux partir à 6 heures. »« Terminons, terminons. Adresse. Monsieur Ballet, 12 avenue de la Révolte, Aulnay-sous-Bois. Monsieur, votre lettre du 9 courant. » En ce moment, je suis totalement dépourvu de la grosseur de grains de riz dont vous me passez commande. Mais par téléphone, cela fait bien, n'est-ce pas, par téléphone? Simone posa son crayon et dit « Vous le faites exprès. Eh bien, je m'en vais. Vous vous débrouillerez tout seul. Je commence à en avoir assez de vos façons. » « Écoutez, Simone, il faut absolument que cette lettre parte ce soir. Je continue. Mais par téléphone, je donne les ordres à mon contremaître, non pas cela, à mes contremaîtres pour qu'une première livraison de 30 tonnes soit prête après-demain. Le solde de votre commande suivra au fur et à mesure de la fabrication. Comme par le passé, vous commencez à m'embêter. » L'employé se leva furibonde. « C'est vous qui commencez à m'embêter. Je m'en vais. À demain et pas avant 10 heures. Cela vous apprendra. » Simone avait été enhardie par la familiarité et les confidences de son patron. Il ne se passait point de jour qu'elle ne s'absentât une heure ou deux sous un prétexte quelconque. Souvent, elle lui disait qu'il était bien bête. Comme beaucoup de gens préoccupés ou indulgents, il n'attachait aucune importance à ses privautés et attendait patiemment que l'on fût mieux disposé à son égard. Il y avait une 20aine d'années, Pierre Neuhart avait été un jeune homme sans aptitude spéciale, pourvu d'une bonne instruction, d'une bonne éducation, conseillé par une famille honorable de fermiers et d'industriels du Nord. La politique seule l'intéressait. Il rêvait de pénétrer dans ce milieu par le journalisme ou par un secrétariat quelconque. Ambitieux, il vit en ses professions, surtout en cette dernière, un moyen sûr de parvenir, et aujourd'hui encore, parlait-on devant lui d'une jeune secrétaire qu'il dressait involontairement l'oreille. Cet emploi lui agréait par les relations qu'il permettait de faire, par les secrets qu'il devait autoriser de détenir, par la considération et l'envie qu'il entraînait, et surtout par les soirées dont il lui facilitait l'accès et au cours desquelles il rencontrerait certainement la femme qui le lancerait par amour. À 18 ans, il vint donc à Paris, loua une petite chambre au quartier latin et, pour apaiser ses parents, alla de-ci de-là rendre visite à des amis de sa famille. Mais il le faisait avec une telle morgue qui rebuta les mieux intentionnés. Lui procurait-on quelques sinécures qu'il avait une moue de dédain. Si l'on ne s'avançait pas, il demandait avec insolence « Qu'est-ce que vous m'offrez ?» Jamais il n'avait une parole de remerciement ni un soupçon de reconnaissance. La vie d'un homme d'État lui semblait tellement plus belle que tout ce qu'on pouvait lui réserver, qu'il était même joyeux de blesser les relations de son père en étalant le mépris qu'elle lui inspirait. « Vous pensez bien, dit-il une fois à l'administrateur d'une compagnie de navigation, que j'ai une autre ambition que de faire de petits voyages sur l'eau. D'ailleurs, où cela me mènerait-il? À Port-Saïd et après? Il faudrait revenir et recommencer. Non, ce n'est pas pour moi. » Eh bien, allez faire de petits voyages à Montmartre, lui répondit l'administrateur qui avait eu vent de la conduite du jeune homme. Pierre Neuhart fréquentait en effet un monde oisif et déchu, où, avec l'argent que son père lui envoyait, il faisait figure de mécène, cela pendant la première semaine du mois. Car ses subsides, il les recevait le 30, ce dont il avait un peu honte, pouvant ainsi, pensait-il, être confondu par les hôteliers et par les boutiquiers avec quelque employé. Il passait ses nuits au hasard des invitations de jeunes gens ivres, de femmes fraîchement émancipées, entraînées tantôt dans un café lointain, tantôt dans un tripot. Mais il conservait toujours, comme excuse, un air de fugitif qui s'encanaille. En dépit de cette feinte, il tombait de plus en plus bas. Bientôt, il ne fit plus le moindre effort pour masquer sa déchéance, prenant même plaisir à la compliquer d'attitude théâtrale. Plusieurs jours durant, il ne se rasait pas, affectait une nonchalance blasée, rembarrait les jeunes femmes qui venaient à lui, comme si le nombre de ses aventures amoureuses eût été tel qu'il ne songeait plus à aimer. Quand on lui adressait la parole, il regardait son interlocuteur d'un œil méfiant, une cigarette aux lèvres, voulant ainsi montrer que ce n'était pas à lui qu'on imposait. Ses paroles étaient comptées. À la fin d'un entretien, il disait simplement « Compris » ou « Vu ». L'hôtel qu'il habitait était souvent visité par la police. Lorsque les inspecteurs l'éveillaient au petit matin pour lui demander ses papiers, il le prenait haut, car, comme tous ceux dont le déclassement est un jeu, il ne tenait pas à être confondu avec les souteneurs, les escrocs, de qui il partageait pourtant la vie. Il se levait à 4 heures de l'après-midi, essayait périodiquement de s'habituer à la cocaïne, mais n'y parvenait pas. Son rêve était de partir pour Venise, où, lui avait-on dit, la réussite est certaine quand on a du charme. Mais son père ne voulait pas lui envoyer les 20 000 francs qui, d'après ses calculs, lui étaient nécessaires pour arriver là-bas avec une malle complète et y manœuvrer avec l'esprit libre et les coups des franches. Il résolut de les gagner. On l'adressa à un professeur de danse. Assidûment, il suivit les cours. Le même soin que les sauvages mettent à la confection d'un piège, il l'apporta à ses préparatifs de départ, ne négligeant rien, demandant à des camarades faisant leurs droits jusqu'où l'on pouvait aller sans tomber sous le coup de la loi, achetant des journaux de mode masculine, composant des billets amoureux. La guerre éclata avant qu'il pût mettre son projet à exécution. Pour certains, elle fut un bienfait. Parti simple soldat à 23 ans, sans avoir fait de service car il avait obtenu un sursis, il était nommé en 1915 aspirant. Blessé plusieurs fois, il redemanda toujours à monter au front. Chaque jour, il perdait un lambeau de sa vieille enveloppe. La vie qu'il avait menée au contact de toutes les classes sociales, de tous les individus possibles, lui paraissait odieuse. En réalité, il retrouvait, au cours de ces années de guerre, le caractère exceptionnel du milieu où il était tombé, mais élargi. De même qu'il avait voulu partir pour Venise, de même il voulut partir pour Salonique. Il en revint lieutenant. La fin de la guerre approchait. Le jeune homme, qui rêvait de devenir un aventurier, s'était transformé. Démobilisé, ce qu'il avait espéré obtenir par d'autres, il voulut l'acquérir par ses propres forces. Son père, riche propriétaire et conseiller municipal de Bleuchâtel, près de Maubeuge, avait une grande autorité en matière électorale dans l'arrondissement où il disposait de 450 voix, chiffre qui se porta à 600 lorsque la conduite courageuse de son fils fut connue de tous. Il fréquentait en outre intimement un certain Hocher, dont la fabrique de tuiles et de briques était la plus importante de la région. M. Neuhart père enjoignit à son fils d'entrer dans cette usine. Il lui avançait 400 000 francs. Pierre les apportait dans l'affaire, qui était absolument sûre, à cause de l'immense travail de reconstruction. En échange de cette somme, il devenait co-directeur. M. Hocher, fatigué par 4 ans de captivité et déjà âgé, ne désirant plus s'occuper que de la clientèle et de la marche générale. Pierre accepta avec joie. Aussitôt, se dépensant sans compter, il adjoignit un dépôt de ciment, de chaux et de plâtre à l'usine, passa des marchés avec l'État, entreprit la reconstruction de villages entiers sur des principes nouveaux, agrandit la clientèle, assura des débouchés. Au bout de 3 ans, cette ardeur s'apaisa. Chaque samedi, il se rendait à Paris où il errait le dimanche sans but, reposé pourtant de ne plus penser à la fabrique. Un dégoût pour Maubeuge l'avait envahi. Il ne pouvait plus voir cette ville, ni les gens qui l'habitaient, ni encore les longs bâtiments sinistres de l'usine. Quand il rentrait le lundi matin, il était si abattu que ses amis ne manquaient pas de faire allusion aux nuits blanches qu'il avait, d'après eux, passées. Ces sous-entendus ne firent qu'accroître l'appréhension qu'il avait du retour. Pourtant, dès que les affaires l'avaient repris, il oubliait ses fugues et redevenait celui qu'il avait été au début. De nouveau, il téléphonait, allait et venait dans la fabrique, prenait des rendez-vous, se déplaçait, surveillait les travaux, avait des démêlés avec la gare. Une semaine, comme il s'était absenté un jour de plus que d'habitude, M. Hocher, vieillard qui, jusqu'alors, avait toujours effréné la fougue de son associé, observa « Il me semble, Pierre, que vous avez perdu le feu sacré. Vous êtes en train de gâcher votre avenir. Je vous le dis dans votre intérêt. À mon âge, vous pensez bien qu'on ne désire plus que la paix. » Au lieu de stimuler Pierre Neuhart, cette intervention lui coupa bras et jambes. La briqueterie de M. Hocher lui inspira une aversion plus grande encore. « J'en ai assez, pensa-t-il. Je ne veux pas m'enterrer ici à 30 ans. Je veux être libre. Je veux faire ce qui me plaît. Je les laisse tomber avec leurs tuiles et leurs ciments. C'est tout de même effroyable de s'enfoncer là-dedans et de s'entendre dire, à peine lève-t-on la tête, « Hé, là-bas, petit, ne remuez donc pas tellement, restez dedans, c'est pour votre bien. » Non, alors j'en ai assez. » Une fois rentré dans son argent, Pierre Neuhart, contre le gré de son père que cette trahison avait indigné, vint à Paris. Il avait son plan, monter une entreprise d'exploitation de carrière, pour laquelle il n'était pas indispensable de disposer d'un gros capital. Il dénicha donc quelques carrières, passa un contrat avec les propriétaires des terrains, auxquels il remettait, en échange du droit d'exploitation, une redevance minime sur le chiffre d'affaires, fit l'achat d'un matériel complet pour l'extraction de la pierre, concasseur, cylindre trieur, wagonnet, camion, chédite, perforeuse électrique, et installa, justement place Saint-Sulpice, un petit bureau centralisateur des commandes. Il était absolument libre. Grâce aux relations qu'il avait conservées à Maubeuge, il ne tarda pas à s'assurer une clientèle. Une vie nouvelle commença, aussi indépendante qu'il l'avait désirée. Si la paresse le prenait, personne n'en souffrait. Il n'avait pas de compte à rendre ni d'explications à fournir. De temps en temps, il allait au théâtre, au music-hall, soit en compagnie d'une femme rencontrée au hasard d'une promenade, soit avec des confrères. Mais il n'aimait pas à les fréquenter. C'étaient des hommes rudes qui tiraient une fierté de leur origine paysanne, alors que lui, au contraire, ne s'appliquait qu'à la dissimuler. Car, de tout temps, il avait rêvé de distinction, de bonnes manières, de réception. Tout en dirigeant ses affaires, il entrevoyait le jour où il serait reçu dans un salon parisien, où il serait très pris à cause des rendez-vous que les femmes de la bonne société lui fixeraient. Les hommes également s'intéressaient à sa conversation. Ils ne trouveraient rien d'anormal à le rencontrer, puisqu'ils le considéreraient comme un des leurs. Mais tout cela n'était qu'un songe. Sa vie, elle était beaucoup plus simple et comme attristée par l'ombre toujours grandissante de ses espérances. Il passait la plus grande partie de ses journées à son bureau de la place Saint-Sulpice. Il lisait beaucoup, portait le même intérêt à tous les livres. Au moment où il fit la connaissance de Madame Aspy, cette existence aisée et morose durait déjà depuis 7 ans. Lorsque Simone eut refermé la porte, Pierre Neuhart resta un moment interdit, puis il murmura « Tant pis, on écrira ses lettres demain. D'ailleurs, cela devient rudement fastidieux. On a envie d'envoyer tout valser et d'aller se promener rien qu'en voyant ce bureau. Gravier numéro 4. Hé hé! Quels idiots que ces gens-là !» À ce moment, 6 heures sonnèrent. « Ah, il faut que j'aille tout de même me changer. Madame Aspy m'attend. Mais pourvu que je ne fasse pas la gaffe de l'appeler Madame d'Aspy. J'ai toujours envie d'ajouter une particule quand je prononce son nom. » Il tira de sa poche un peigne, se coiffa dans une petite glace fixée au mur, revint au milieu du bureau. « On ne peut pas dire que c'est moderne ici, » dit-il à haute voix. « C'est bien assez beau pour vendre des cailloux. »« Dire que je vends des cailloux, des wagons de cailloux, des trains de cailloux. Il faudra que je calcule combien cela vaut le kilo. D'ailleurs, je vais demander au contremaître de m'apporter les échantillons. On les mettra sur la cheminée. » D'abord un grain de riz, puis gravier numéro 1, 2, 3, 4. Au fond, j'aurais mieux fait de rengager. Bien qu'il affectât cette désinvolture, Pierre Neuhart était de plus en plus nerveux. Il ne cessait de penser à Madame Aspy. C'était la première fois depuis qu'il habitait Paris qu'il pénétrait dans un monde autre que le sien et qu'il imaginait de beaucoup supérieur. Aussitôt dehors, il appela un taxi et se fit conduire au boulevard Pereire, où il avait loué, dans un immeuble neuf, un petit appartement de 3 pièces qu'il avait fait tapisser de papier de couleur voyante dont il était très fier. L'ensemble donnait une impression de luxe à bon marché. Un groom, découpé dans une planche de bois, tendait un plateau supportant des articles de fumeurs. Des coussins de crin, mais chamarrés d'or ou d'argent, traînaient partout. Un tapis cloué, d'un rouge cru, recouvrait le parquet dans ses moindres recoins, et cette teinte éclatante n'allait pas sans surprendre lorsqu'on la découvrait, aussi fière, derrière un meuble quelconque. À contempler les plafonniers triangulaires, les meubles douillés, parce que choisis douillés au magasin, on devinait chez le locataire une prédominance de goût pour le rococo, mais si légère qu'il avait suffi de l'insistance de quelques vendeurs pour qu'elle s'évanouît et le laissa en face de la confection du moment. À peine entré, Pierre Neuhart mit en marche son gramophone. Il s'assit tout près, de manière à le régler sans se lever, et, tout en fumant une cigarette, écouta, en battant imperceptiblement la mesure, d'un mouvement précipité des genoux. Il y avait autour de lui un désordre qu'il n'envisageait même pas de réparer. Finalement, il ôta son chapeau, le jeta sur un divan. Il avait tourné les commutateurs de toutes les pièces. À la musique et à la lumière, il vouait une sorte de respect. La gaieté lui était agréable. Mais dans son appartement, cependant qu'un disque tournait, qu'une clarté tamisée tombait des plafonniers, il conservait cette mine de l'hôte qui, ayant conscience de ses devoirs, déploie toutes les distractions qu'il peut offrir. Une expression triste était peinte sur son visage. On sentait qu'il se rendait nettement compte que l'animation cesserait dès qu'on ne l'entretiendrait plus. « Cela suffit comme ça, » dit-il en refermant le phonographe. « Il faut que je m'habille. » À 7 heures, la femme de ménage vint lui préparer son dîner. Il mangea sans appétit, absorbé qu'il était par la soirée de Madame Aspy. De nouveau seul, il retourna dans la minuscule salle de bain, se recoiffa, puis, content d'avoir encore 1 heure devant lui, se mit à chantonner un des airs qu'il avait fait jouer. C'était à la Grande Avenue que Pierre Neuhart avait fait la connaissance de Madame Aspy. Presque chaque soir, il se rendait dans des brasseries ou dans des établissements de nuit. Il s'ennuyait tellement chez lui, il avait tellement horreur d'être seul après le dîner, qu'il aimait encore mieux traîner ainsi. Parfois, il faisait la connaissance d'un consommateur plus ou moins aimable. Il avait cette indifférence de ceux qui se lient facilement. Mais il ne lui venait jamais à l'idée qu'une suite pût être donnée à ses entretiens. Dans le train, dans la rue, au café, il répondait aux gens les plus lointains qui lui adressaient la parole. Distraitement, et justement parce qu'il était visible qu'il n'attendait rien, il inspirait confiance. Madame Aspy, qui était accompagnée d'un vieux monsieur galant, monsieur de Petite Pierre, occupait une table voisine de la sienne. Elle ne cessait de regarder Pierre Neuhart. Comme il l'observait sans se douter de l'attention dont il était l'objet, elle lui sourit, puis, pour satisfaire une curiosité enfantine, semblait-il, demanda « Vous n'êtes certainement pas français !» Sur une réponse affirmative, elle ne se démonta pas. « Alors vous êtes un artiste, parce que vous avez un être qui n'est pas celui de tout le monde. » Madame Aspy, quoique d'un âge assez avancé, était très coquette. Elle aimait le flirt, les compliments, l'esprit chevaleresque, les choses belles. Mais elle aimait également à étendre ses relations. Forte du principe qu'il faut connaître beaucoup de monde avant de rencontrer celui qui vous sera utile, elle cherchait à être invitée partout, à être présentée à tous, à rendre service à ses amis, car il lui semblait que, ayant été la première à aider, elle pourrait plus tard demander à ses obligés plus qu'elle n'avait donné. Dès qu'elle se trouvait en présence d'un inconnu, il fallait qu'elle connût son nom et sa situation. Elle parlait sans cesse de l'indépendance de la femme, de sa nouvelle fonction dans la société actuelle, des clubs, nous, les divorcés, et celles qui luttent, desquelles elle faisait partie et que présidait une jeune avocate, Maître Momente. Vous êtes peut-être journaliste, demanda-t-elle encore à Pierre Neuhart, qui éprouvait le sentiment désagréable de décevoir. Je suis simplement dans l'industrie, madame. Vous êtes un industriel, alors ? Madame Aspy ne manquait jamais de rehausser ses relations. Un comptable devenait un monsieur qui occupait un poste important dans le commerce. Tous les hommes qui la fréquentaient avaient de grosses responsabilités. Les femmes étaient toutes d'une beauté divine, coquettes mais très fines. « Je vais appeler le maître d'hôtel dans un instant si on ne vient pas servir monsieur, » dit monsieur de Petite Pierre en désignant le guéridon qu'occupait Pierre Neuhart et en menaçant le garçon de l'index. « Mais monsieur n'a qu'à s'asseoir à notre table, il sera beaucoup plus vite servi, j'en suis sûre. » « N'est-ce pas, monsieur de Petite Pierre ?»« Mais certainement, madame. Permettez-moi de tirer un peu la table vers nous. Attention, madame !» Avant que Pierre Neuhart eût changé de place, et cependant qu'il prenait son chapeau posé près de lui, elle chercha à le présenter à son compagnon, qui, les mains tendues, voulait aider à déplacer les chaises. Mais comme elle ignorait le nom de Pierre, elle dit en minaudant « Je meurs d'envie de vous présenter à mon vieil ami, monsieur de Petite Pierre, mais votre nom m'est inconnu, monsieur. » Tout en parlant, elle reculait pour faire de la place au nouvel arrivant, déplacer son sac, s'agiter. Qu'un nouveau venu s'ajoutât à son entourage, la comblait toujours de satisfaction. Dans un groupe, elle seule, d'ordinaire, faisait bon accueil aux retardataires. Pierre Neuhart, dit l'industriel pour se présenter. La conversation ne tarda pas à rouler sur des banalités. Puis M. de Petite Pierre parla d'une jeune fille américaine qu'il avait connue et qui avait été très sensible à sa distinction. La conclusion était que les jeunes filles étrangères sont heureuses de trouver dans notre pays une courtoisie, un respect de la femme, sous lesquelles elles sentent cependant notre ardeur. « Il faudrait que monsieur vienne vendredi soir, ne croyez-vous pas ?» demanda Madame Aspy à monsieur de Petite Pierre. « Mais certainement !» Madame Aspy se tourna alors vers Pierre Neuhart. « Il faudra que vous me fassiez le plaisir, monsieur, de venir vendredi soir. Je réunis des amis et quelques élèves, car à mes moments perdus, je donne des leçons de chant. On fera de la musique. Monsieur de Petite Pierre, écrivez donc mon adresse à monsieur. 110 rue de Sèvres. Alors, viendrez-vous, monsieur ? Cela me fera un grand, très grand plaisir et vous verrez des gens intéressants. »